Vous avez donc compris, on a chanté cette parabole que se trouve dans Matthieu chapitre 7. Et rappelons-nous ce que Jésus dit. Beaucoup disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, des torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Remarquez donc, la ruine a été grande. Waouh! C'est vraiment exceptionnel. Comment le Seigneur nous dit que si nous voulons avoir une vie qui soit une vie réussie et pas une vie en ruine, la clé, c'est l'obéissance. C'est obéir l'Éternel. Alléluia! Et c'est vrai que comme nous l'avons vu hier, ça paye, ça coûte de désobéir à Dieu, ça coûte aussi d'obéir à Dieu. Amen. Mais les dividendes sont tellement grandes. Amen. Quiconque est dans les affaires sait très bien que pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose, ça coûte. Mais en général, on entreprend et on investit parce qu'on sait que ça va rapporter. En tout cas, on l'espère. La bonne chose avec la parole de Dieu, c'est qu'on ne doit plus espérer. On le sait déjà. Amen. On sait qu'obéir à la parole de Dieu va rapporter. Amen. Quand on parle de l'obéissance, Jésus disait dans Luc 6, 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? Je crois que pour un petit peu clôturer ces 5 réunions qu'on aura fait ensemble, une bonne chose de voir, c'est 4 choses que Dieu veut que nous obéissions tous les jours de notre vie. Et je voudrais vraiment terminer avec ça aujourd'hui. Si on a tout oublié, qu'on n'oublie jamais ces 4 points-ci. La première chose que Dieu veut que nous obéissions, c'est sa parole. Amen. La parole de Dieu, voici ce que nous devons obéir. En tout temps, à toutes circonstances, en tout moment, obéissons la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de la parole, ancrés dans la parole de Dieu. N'ayons jamais peur de croire la parole et d'obéir la parole. Dieu recherche toujours des personnes qui osent croire ce qu'il dit et qui osent faire ce qu'il dit. Amen. Et toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, que ce soit dans le ministère ou même dans les affaires, sont des personnes, quand je parle des personnes chrétiennes, sont des personnes qui ont osé croire la parole de Dieu et qui ont osé la mettre en pratique dans leur vie. Ils ont osé croire ce que la parole de Dieu disait, croire ce qu'elle disait à propos d'eux, croire ce qu'elle disait qu'ils pouvaient faire. C'est pour ça que nous faisons cette confession. Dans mon église, ça fait des années que je la fais et les gens ne sont pas fatigués de la dire, tous les dimanches. Amen. Voici ce que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je fais ce que je peux. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je possède ce qu'elle dit que je peux faire. Je possède. Et constamment, et nous croyons, et nous avons un besoin de croire la parole et en plus de l'obéir. Amen. Si Dieu dit que vous êtes prospère, ben vous êtes prospère. Si Dieu dit qu'il veut que vous prospériez, c'est parce qu'il veut que vous prospériez. Amen. Le gros problème que l'on trouve souvent dans des églises, c'est de croire que la parole, elle est aléatoire, qu'elle est bonne pour toi, mais pas pour toi. Que la parole de Dieu pour une personne, elle est bonne pour vous, mais elle n'est pas spécialement pour vous. Si Dieu dit à ma sœur, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est pour elle, hein, mais pas pour moi. Ah ! Mais qui t'a dit ça ? Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que toutes les promesses de la parole de Dieu sont oui et amen pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait aucun favoritisme. Amen. Et ce qu'il désire pour Pasteur Brian ou pour Pasteur Réal, il le désire pour moi, il le désire pour Alain, il le désire pour Philippe, il le désire pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu ne fait aucun favoritisme. Amen. Oh, mais certains disent, oui, mais quand même, tel est tel mieux que l'autre. Non, Dieu voit chacun avec les mêmes yeux. Hello? Amen. Hein, et avec les mêmes yeux, il nous aime et il désire nous faire du bien. Et donc, c'est nous aussi, nous devons croire que Dieu veut faire du bien à chacun d'entre nous. Et chaque fois que la parole est prononcée, elle est aussi pour moi. Un des génies de la parole de Dieu, c'est que même si la parole de Dieu a été écrite pour des gens bien précis, Paul au sein d'Éphèse, Paul au sein de Philippe, Dieu à Jérusalem ou Dieu à Israël, c'est des paroles qui ont été écrites précisément pour des gens bien précis. Mais le miracle de la parole de Dieu, c'est que même si ça a été écrit pour des gens bien précis, à un moment bien précis, à un lieu bien précis, ces mêmes mots sont pour nous. Et elles ont effet pour nous. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que nous pouvons tous dire que pratiquement toutes les prophéties concernant Israël concernent aussi l'Église. Elles nous concernent aussi. Je vous rassemblerai, je ferai de toi une grande nation. Alléluia! Hein, tu seras la tête et pas la queue. Amen! Hello! Et même ça, même lorsqu'une parole prophétique est prononcée dans l'Église, ou une parole de connaissance, peut-être que la parole de connaissance est pour lui. Mais toi aussi, tu peux recevoir la même parole de connaissance au même moment. Alléluia! Tu veux dire, je prends pour moi aussi. Alléluia! Ce serait dommage qu'il n'y ait que 4 paroles de reconnaissance pour lui, pour elle, pour elle. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et moi alors? Take it! Prenez-le! Mangez la parole! Recevez la parole! Et marchez avec la parole de Dieu. Alléluia! C'est marrant. Combien de fois vous avez pas, pasteur, combien de fois n'avez-vous pas prêché dans votre église? Et puis quelqu'un vient chez vous. Oh, pasteur, le message était pour moi tout seul! Puis, 5 minutes plus tard, quelqu'un dit, oh, pasteur, le message était pour moi tout seul. Alors, vous ne savez pas, vous êtes tout seul à aller voir le pasteur, peut-être qu'il y en a 15, 20, 30, 50, le même jour que c'était pour moi tout seul. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui a un effet multiplicateur et qui a un effet de réception multiplicatrice. Alléluia. Alléluia. Et tout ce qu'on dit ce soir, tout ce qu'on a dit hier, avant-hier, dimanche, dimanche passé, jeudi, hier, demain matin, le pasteur prêchera, tout ce qui est dit peut s'adresser à une personne, mais en même temps, elle s'adresse à tout le monde. Ça, c'est là le miracle de la parole de Dieu. Lisez n'importe quel livre, ça ne sera jamais comme ça. Même le Coran, ce n'est pas comme ça. Oh, oh. Alléluia. Et Dieu nous dit, obéissons la parole de Dieu. Ayons l'audace, ayons le courage d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Ayons le courage de dire, waouh, c'est écrit, je le crois, c'est pour moi. Tiens, c'est pas mal ça, c'est pour moi, tiens. Alléluia, c'est pour moi, amen. Et vous écoutez une symphonie, vous dites, oh, on dirait qu'elle est écrite que pour moi. La parole de Dieu, elle est écrite pour vous, amen. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia. La parole de Dieu, Jésus dit, mes paroles sont vie et vérité, et esprit, pardon, vie et esprit, dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, dit-il. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Esprit et vie, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Chacune des paroles qui est écrite dans la parole de Dieu est esprit et vie pour vous et pour moi. Alléluia. Alors, qui de nous ne voudrait pas obéir à la vie et à l'esprit de Dieu? Amen. Et donc, ainsi, nous allons faire quelque chose, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons l'obéir à la lettre. Alors, quand je dis à la lettre, vous comprenez bien qu'il faut faire attention. Quand Jésus dit « coupe ta main gauche », ne la coupez pas. Quand Jésus dit « arrache ton œil », ne l'arrachez pas. À la rigueur, si vous voulez vraiment l'arracher, allez à l'hôpital, ils vont faire une greffe pour quelqu'un d'autre. Au moins, ça sert à quelque chose. Votre bêtise servira à quelque chose. Non, il faut... non, il faut comprendre qu'il y a des manières d'interpréter la parole de Dieu. Amen. Ce que Jésus dit quand il parle de couper, etc., c'est qu'il dit, écoute, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, Et il faut savoir crucifier la chair. Amen. Mais n'allez pas vous mettre sur la croix, hein, comme ils le font en Philippines. Vous savez qu'en Philippines, ils font ça. Chaque année à Pâques, il y a quelqu'un qui se fait clouer sur la croix. Cloué ! Quelle horreur ! Vous voyez combien c'est démoniaque, ces choses-là. Amen. Non, mais nous comprenons bien que la parole de Dieu, elle est là. Elle dit, par exemple, « marcher dans l'amour ». C'est intéressant, la Bible dit, il y a 27 ordres précis qui se dit les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, encouragez-vous les uns les autres, etc. Et il y en a un qui n'existe pas, et pratiquement tous les chrétiens le font. Critiquez-vous les uns les autres. Pas ici, bien sûr, je disais en Suisse, bien sûr, au Canada, personne n'oserait faire ça. Mais il y a même des versets, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Vous allez à l'église, j'aime aller à l'église, oh, mais il y a telle ou telle personne, j'ai pas envie d'aller. Non, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Même ceux qui sont difficiles à supporter, quand ils sont difficiles, on les appelle insupportables. Il y en a peut-être ce soir qui ne me supportent pas. Bon, c'est un peu difficile, c'est là. Mais comment ça peut arriver ? Amen. Mais on fait ce que la Bible dit. On marche dans l'amour, on marche dans les principes de la parole de Dieu, et on va, et la première chose qu'on va faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on doit faire, chacun d'entre nous, c'est obéir à l'appel de Dieu. Chacun de nous est appelé. Amen. Alléluia. Chacun de nous est appelé à appartenir à Dieu, à devenir comme Christ. Je crois que c'était dimanche soir que pasteur Chantal chantait « Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. » Et puis ?« Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Te ressembler, Jésus, c'est mon... C'est non seulement c'est notre désir suprême, mais c'est un ordre. Alléluia. Amen. Nous avons été appelés pour ressembler à Jésus-Christ, pour être conformes à l'image du Fils de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, nous sommes appelés. Et on est tous appelés. On est tous appelés à devenir comme Christ. Alléluia. Écoutez-moi, devenir comme Christ n'est pas une option, c'est un appel. Amen. Je vous disais il y a quelques jours que j'avais des amis qui expressément n'osaient jamais mettre l'autocollant, le sticker du poisson sur sa voiture. Vous savez, les poissons, c'est pour les chrétiens. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça ? On m'a dit, imagine-toi, je roule mal, je roule trop vite. Ils vont dire, mais c'est ça les chrétiens. Hé, les gens ne vont pas croire que tu es chrétien uniquement parce qu'il y a un poisson sur ta voiture, tu sais. Hello, les gens de tous les jours savent que vous êtes chrétien. Au contraire, non seulement ils savent que vous êtes chrétien, mais ils regardent ce que vous faites. La première petite chose que vous faites mal, ils disent, c'est ça qu'on vous enseigne à l'école biblique. Ou c'est ça qu'on vous enseigne à l'église des enfants. Ou bien c'est ça qu'on vous enseigne à l'église. Hello, notre comportement est la première source de persécution pour le chrétien. La manière dont on va se comporter va attirer les gens vers nous ou les éloigner de nous. Mahatma Gandhi a dit ceci, vous vous rappelez, grand Gandhi. Il a dit, je serais devenu chrétien si je n'en avais jamais rencontré. Alors, il faut dire que c'est un fait que dans son pays, l'Inde, les chrétiens, c'était les Anglais. C'était l'envahisseur, c'était l'occupant. Puis il va en Afrique du Sud, et là, il y a une sorte d'apartheid où les étrangers sont mis de côté, et lui il est là, il ne peut pas aller dans un train de première classe, il doit être en troisième classe, alors qu'il a les moyens de le payer et tout. Il dit, si je n'avais jamais rencontré de chrétien, je serais devenu chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il a vu Jésus agir. Il a vu comment dans la parole de Dieu, Jésus vivait. Et il s'est dit, mais les gens qui se disent chrétiens ne vivent pas comme lui. Nous sommes tous appelés à vivre comme Jésus-Christ. Et croyez-moi, vous serez étonnés de voir et de rencontrer des gens à qui un jour vous leur dites, tu sais, je suis chrétien, et qui vous diraient, mais j'ai toujours su que tu étais chrétien. J'ai toujours su. Des fois, je me posais la question si tu l'étais vraiment, mais je l'ai toujours su. Mais imaginez-vous que des gens vous épient, épiés, et vous mettent à l'épreuve, vous donnent le change sur 100 dollars, et au lieu de vous donner 30, ils vous en donnent 50, et vous voyez ce qui vous partait, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je me souviens de cet homme, un jour, il est allé à la station service, et il a repris le change, et il y avait à peu près 15 ou 20 dollars de trop, et puis il est revenu, et dit, monsieur, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, vous m'avez rendu trop. Oh, mais c'est pas grave. Ah, peut-être pas grave pour vous, mais pour mon patron, c'est grave, hein? Ah oui, c'est qui votre patron? C'est Jésus. Cet homme a été transformé quand il a vu l'honnêteté d'un chrétien. Amen. Et nous devons tous suivre l'appel que Dieu a pour nous. Amen. Nous sommes tous appelés à ce que la Bible appelle le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est réconcilier les gens avec Dieu. Amen. C'est de parler de Jésus-Christ autour de nous. Et nous devons parler de Jésus autour de nous. Amen. Certains sont appelés à des ministères beaucoup plus, à des appels beaucoup plus précis. Peut-être certains sont appelés pour être musiciens, certains sont appelés pour servir Dieu précisément dans l'église locale, d'autres sont appelés dans le ministère. Mais quel que soit l'appel que nous avons, quelle que soit la vocation que nous avons, même quel que soit le métier que nous avons, certains sont vraiment appelés à faire le métier qu'ils font. Et vous savez, nous sommes tous sur la terre pour résoudre les problèmes des autres. Si je ne vais pas dans le ministère, j'aurai ma propre société qui s'appelle Problem Solvers International. On est né pour résoudre les problèmes des autres. Alléluia. On est tous une semence donnée par Dieu pour bénir les autres autour de nous. Amen. Le banquier, par exemple, va résoudre mon problème de sécurité pour mon argent. L'avocat va résoudre mon problème de défense. Qui va me défendre? Le boulanger va résoudre mon problème de mon pain quotidien. Hello? Le Walmart ou les négoces vont résoudre mon problème de où je vais acheter tous les jours. L'agriculteur, il résout mon problème pour mes légumes frais, organiques, comme on dit ici. Hello? Chacun de nous, même s'il est dans un métier, le plombier, il résout le problème de comment va venir l'eau chez moi à la maison. Alors, certains disent, mais j'ai plus besoin de plombier. Nous, on n'a pas besoin de plombier. Vous savez comment faisaient mes grands-parents? Ils prenaient l'âne et la mule et faisaient 3, 4, 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Quand j'étais petit, mes grands-parents habitaient en ville, alors leur l'eau venait une ou deux fois par semaine et ils devaient les mettre dans des containers et quelquefois, ils n'avaient pas d'eau pendant 3-4 semaines quand même. Mais j'allais dans les campagnes chez de la famille et tous les matins, on allait chercher l'eau à dos de mule. Gloire à Dieu pour les plombiers. Amen. Qui nous apporte de l'eau pour les électriciens, etc., etc. Amen. Chaque métier peut-être un métier, peut-être une vocation de la part de quelqu'un. Le problème, c'est ceci, c'est très souvent, on fait notre métier par devoir et plus par amour. Amen. Mais Dieu dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que vous faites. Alléluia. Et personne ne pensait, oui, mais je ne suis pas un serviteur de Dieu, moi, je ne suis pas un pasteur. Mais heureusement qu'on n'est pas tous pasteurs, sinon on serait des pasteurs qui se prêchent entre pasteurs. On serait tous sur la plateforme et on prêcherait à des bancs vides. Bancs, réveillez-vous. Amen. Non, mais chacun est appelé de Dieu. Hallelujah. Et nous devons suivre l'appel de Dieu. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Quelquefois, des personnes vont avoir plus une onction pour une chose que pour une autre chose. Suivons cette onction-là et faisons-la. Amen. Ensuite, la troisième chose que nous devons suivre, c'est la vision de Dieu. Dites-le avec moi, la vision de Dieu. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de précis, on est tous appelés. La vision de Dieu, c'est la grande image de ce que Dieu veut faire. Moi, il m'est arrivé d'avoir des livres à la maison des grands. Moi, j'aime beaucoup les livres, j'ai des milliers de livres à la maison. Et je viens encore en acheter. Ma femme me dit, mais chaque fois que tu sors, chaque fois que tu pars quelque part, tu apportes toujours des livres. Après, elle les lit, elle est contente quand même. Hein. Et j'avais acheté un grand livre comme ça. Et j'aimais beaucoup, il y avait des belles images, etc. et tout, des plans et tout. Et quelques temps plus tard, j'avais dans ce livre-là, peut-être quelques semaines plus tard, je montrais le livre à quelqu'un. Et puis la personne l'ouvre et dit, oh regarde, et puis qu'est-ce qu'on voit ? On voit la page se déployer plus grande. Au lieu d'une simple page letter ou A4, c'était une page A2 ou A3, beaucoup plus grande. Et j'ai vu carrément une autre vision de l'image que le livre voulait nous donner. Amen. Et je crois que quand on parle de vision, c'est un petit peu comme ça dans notre vie. Dieu déploie ce livre grand ouvert de la vision et il nous offre un panorama beaucoup plus grand. Alléluia. Et on voit beaucoup plus grand tout ce qu'on fait. Et dans la vie, c'est important de suivre la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Il est un fait aussi que quand on parle de vision, la première chose, la première vision que chacun doit suivre, c'est la vision que Dieu a donnée à son église locale. Amen. D'ailleurs, quiconque veut être dans le ministère, le meilleur conseil que je peux donner, c'est servir la vision de quelqu'un d'autre. Servez la vision de votre pasteur. Oui, mais si je dois faire ma vision, pas la vision de mon pasteur. Non, d'abord fais la vision de ton pasteur. Entre, demande au pasteur, qu'est-ce que je pourrais faire ? Alléluia. Que pensez-vous que vous pourriez, où pourriez-vous m'utiliser dans l'église pour que je puisse vous aider à développer votre vision ? Amen. Et savez-vous quoi ? Quand vous développez la vision de votre pasteur, un jour, d'autres seront là pour vous aider à développer votre vision. Amen. On sème et on récolte. On sème et on récolte. Attention, il faut faire attention par contre parce que certaines personnes n'ont pas compris la différence entre développer la vision du pasteur et aider la vision du pasteur et l'autre chose qui est utiliser la vision du pasteur comme rampe de lancement. Je vais servir le pasteur, comme ça je vais me faire un nom. Et une fois que je fais un nom, je vais dire « bye bye, pasteur !» Non, ce n'est pas comme ça qu'on parle. On parle de servir la vision que Dieu a donnée dans l'église locale. Amen. Quelquefois, votre vision peut entrer dans l'église locale. Elle peut, en parlant avec le pasteur, en négociant avec le pasteur, en demandant l'avis au pasteur, peut-être que le pasteur va dire « hey, cela va en accord avec ce que Dieu m'a donné. » Amen. Mais quelquefois, non. Moi, je me souviens longtemps, quand j'étais petit et jeune, je suis toujours jeune d'ailleurs, mais je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'enseignements dans Jeunesse en mission qui étaient très intéressants et où ils parlaient de la mort et de la résurrection de ta vision. Et au départ, je ne comprenais pas, parce que quand on est jeune, on ne comprend pas toujours tout. Mais j'ai compris un jour qu'il y a un moment dans notre vie où on doit pouvoir oser dire que ma vision, je la mets de côté et je vais servir la vision de mon église locale. Amen. Alléluia. Et probablement dans l'avenir, la vision que j'avais est Dieu va la ressusciter et elle va s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais il est impératif pour chacun d'entre nous, après avoir continuellement obéi la parole de Dieu, chaque jour, tout en obéissant la parole de Dieu, tout en obéissant l'appel de Dieu, nous sommes appelés à servir la vision que Dieu a donnée à l'église locale. Par exemple, dans le cas de Paul, ils étaient 120 à suivre la vision de Paul. Amen. Mais quand Paul a reçu la vision de l'homme macédonien, qui a reçu cette vision ? Paul. Amen. Mais ils étaient 120 après à dire, et nous avons conclu que Dieu nous appelle en Macédoine. Amen. Et ils ont suivi la vision, ils ont embrassé la vision. Amen. Mais sans vision, la Bible dit, le peuple est comme sans frein. Ça veut dire que aller sur une montagne et descendre avec une voiture sans frein, vous allez faire un tournant, deux tournants, au bout du troisième tournant, vous n'y arrivez plus. Vous tombez à travers les champs, etc. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir aller quelque part, on a besoin de pouvoir freiner. Et c'est ça. Paul parle de la vision, il dit « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. » Amen. Et quand vous servez la vision que Dieu donne à l'église locale, cette vision-là, elle pose des paramètres. C'est comme des freins qu'elle pose. Hello? Elle dit « Ok, on va aller là. Là, on peut aller, mais là, on ne peut pas aller. » Amen. Mais pas parce qu'on ne veut pas que vous n'alliez là. C'est parce que la vision, elle va par là. Et si on veut aller avec des freins, et si on veut avoir une vie en sécurité, nous avons besoin de suivre la vision que Dieu a donnée. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Et la vision, c'est extraordinaire. Voyez-vous, vous avez entendu parler de Walt Disney? Qui a entendu parler de Walt Disney? Amen. Vous savez, Walt Disney était un grand visionnaire. C'était un homme de vision. Il avait tellement d'idées, tellement de visions, et c'était un homme qui n'abandonnait jamais. Il était connu comme ça pour ne jamais abandonner. D'ailleurs, il s'est mis à travailler pour un journal, mais au bout de quelques temps, le journal a dit « On vous renvoie parce que vous n'avez pas de bonnes idées. » Puis il se retrouve à la rue, il se dit « Mais comment je vais faire ?» Mais il avait toujours de bonnes idées. Et il a commencé à chercher du boulot à gauche et à droite, et un pasteur l'embauche. Le pasteur l'embauche, il dit « Ok, je crois en toi et je vais te demander de faire des petits dessins pour les affiches publicitaires, pour l'église, pour faire connaître l'église. » Alors il dit « Écoutez, moi je veux bien faire ça, mais je ne sais pas où dormir, est-ce que je peux dormir quelque part ?» Et le pasteur, vous savez où il l'a mis ? Il l'a mis dans une pièce dans l'église. Et savez-vous ce qu'il y avait dans la pièce ? Plein de souris. Et une de ces souris, il l'a appelée Mickey. Elle est devenue la souris la plus célèbre au monde. Avec Speedy Gonzalez. Come on, Speedy Gonzalez. Amen. Un visionnaire extraordinaire. Alléluia. Quand il a commencé à faire ses premiers dessins animés, il n'y a personne qui voulait les acheter. Certains disaient qu'il n'avait aucun talent, mais il avait une vision. Et il avait une vision. Puis vous savez que grâce à cet homme qui a eu confiance en lui, qui a cru en lui, et croyez-moi, quand on travaille dans une église locale, quand on fait quelque chose dans une église locale, de nos jours, j'ai l'impression de voir beaucoup de gens qui disent « Le pasteur, il doit être content que je te sers dans l'église. » Non, la bonne attitude, c'est « Je suis tellement heureux de servir dans l'église. » Je me sens tellement privilégié de servir dans l'Église. Alléluia. Quel honneur de servir dans l'Église, de servir Dieu au travers de l'Église locale. Amen. Amen. Et donc, cet homme était plein de talent et cette Église a cru en lui, lui a donné ce privilège. Et grâce à ce privilège-là, il a commencé à développer une grande société qui est devenue Disney World. Amen. En 1974, lorsque Disney World a été construit à Orlando, en Floride. M. Disney était déjà mort depuis quelques années. Et lors de l'inauguration, un des grands assistants, assistant de Walt Disney, parle avec Madame Disney et dit « Regardez comme c'est merveilleux. Oh, ça aurait été vraiment merveilleux si Walt Disney était ici pour voir cela. » Et la femme le regardait et dit « Monsieur, avant que c'était construit, Walt Disney l'avait vu. » En fait, elle a dit exactement, mais s'il ne l'avait pas vu avant, vous n'aurez pas pu le voir aujourd'hui. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Et c'est important pour nous de suivre la vision que Dieu donne à chacun de nous. Amen! Dieu nous donne une vision, essayons de la porter dans l'église, avec l'église locale, de servir l'église locale. Si notre vision n'est pas en accord avec l'église locale, mettons-la de côté! Hello, j'ai vu trop de gens quitter l'église parce que ma vision n'est pas la même de celle du pasteur et aujourd'hui ils ne sont nulle part. Parce qu'ils n'ont pas compris que le principe même de la vision, c'est de la mettre sur l'étagère et de comment suivre la vision de quelqu'un, de servir la vision de quelqu'un et d'aller en avant dans la vision de quelqu'un. Amen. Les 12 disciples, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont tout mis de côté. Ils ont suivi la vision de Jésus-Christ. Amen. Mais quand il... Écoutez, ça, c'est aussi extraordinaire. Quelquefois, Dieu donne une vision pour une seule raison. C'est que vous entrez dans l'église et que vous servez l'église locale. Et quelquefois, la vision, elle part. Vous êtes tellement heureux de suivre Dieu dans la vision d'ici. En Europe, dans la francophonie, nous avons eu un réveil dans les années 30 du siècle passé avec un homme qui s'appelait Douglas Scott, un homme de Dieu remarquable. Il est venu, il a apporté le réveil et des centaines d'églises sont nées grâce à son ministère. Mais il n'était jamais appelé pour la France. Il était appelé pour l'Afrique. Et il n'est jamais allé en Afrique. Il est arrivé en France, en bateau, à l'époque on voyageait encore en bateau, il est arrivé au Havre. Une fois qu'il est arrivé au Havre, ben, il a commencé à prêcher l'évangile. Il y a eu des réveils sur réveils, sur réveils, sur réveils. Il n'a plus le temps d'aller en Afrique. Écoutez, Dieu avait mis dans son cœur l'Afrique pour une seule raison, pour le bouger de sa maison. Pour qu'il sorte de sa maison, et il est entré en France, et puis en Belgique, et il a apporté un réveil extraordinaire. Amen. Et on doit vraiment faire attention à ces choses-là. Et se poser la question, Seigneur, est-ce qu'il faut que ma vision diminue, et que ta vision croisse dans ma vie? Amen. Alléluia. Et donc, la meilleure manière de suivre la vision que Dieu a pour nous, c'est d'abord de servir Dieu dans le sein de l'église locale. D'aller vers le pasteur et ne même pas lui dire « J'ai une vision, voilà ce que je voudrais faire. » Mais d'aller vers le pasteur et dire « Pasteur, je voudrais servir Dieu dans l'église. Que puis-je faire ?»« Ouais, mais l'autre fois, j'ai demandé ça au pasteur, il m'a demandé de laver les toilettes. » Eh ben, moi j'ai lavé les toilettes depuis que j'ai 10 ans à l'église. Et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, tout le monde était content, c'était toujours propre après. Quelle bénédiction! La Bible dit, mais comment les enverrons-nous s'il n'y a personne qui les envoie? Amen. Et puis il dit, si, comment entendront-ils l'évangile si personne ne les prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comment prêchons-nous l'évangile si quelqu'un ne vient pas allumer la lumière, si quelqu'un ne vient pas allumer le chauffage, surtout en hiver quand il fait moins 25, moins 30, moins 40? Amen. On a besoin les uns des autres. Cette tâche dans l'Église est tellement importante. Amen. Amen. On demanda à Hélène Keller, qui se rappelle de qui est Hélène Keller? Hélène Keller est une femme qui était sourde et muette, et au bout de quelques années, elle est devenue aveugle. Et elle a appris à communiquer avec tout le monde. Elle était enseignante d'université, sourde, aveugle et muette. Extraordinaire. Et un jour, on lui a posé la question, « Mais selon vous, qu'est-ce qui est plus grave que de perdre la vue ?» Vous savez qu'est-ce qu'il a dit ? Ne pas avoir de vision. Avoir la vue, mais ne pas avoir de vision. N'êtes-vous pas heureux que vous êtes dans une église qui ait de vision ? Qui veut voir la ville de Sherbrooke et le Canada enflammés pour l'Évangile, par la parole de Dieu, une parole qui n'est pas diluée, mais qui est remplie de l'Esprit de Dieu, qui est esprit et vie, d'apporter la parole de la foi dans toute la région. Ne trouvez pas ça merveilleux? Hallelujah! Quand j'entendais dimanche comment vous bénissez la mission, j'étais vraiment époustouflé. Ça fait partie de la vision de cette Église. Amen! Il y avait un pasteur... dans la région de Toronto, dans les années 40, un très connu, Oswald Smith. Et il avait à cœur la mission. C'était un homme de la mission. Toute sa vie, il s'est préparé pour la mission. Et jusqu'au jour, il s'est rendu compte qu'après être allé une fois en mission, il a dû revenir, il était tombé malade, et on lui a dit qu'il ne peut plus partir dans ces pays-là. Que c'était mieux pour lui, pour sa santé, de rester au Canada. Et il est resté au Canada. Je crois que c'est une chose les plus terribles qui peut arriver à quelqu'un, c'est quand vous savez que vous devez faire quelque chose et vous n'arrivez pas à le faire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Comme Walt Disney, il n'a pas abandonné. He didn't give up. Alléluia. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, OK, c'est comme ça. Le diable ne veut pas m'envoyer en mission, que j'aille en mission. OK, peut-être que je ne pourrais pas aller en mission avec mon corps, mais ce que je peux faire, c'est que je peux soulever des fonds pour envoyer des missionnaires. Et à l'époque, il a envoyé, il a soulevé des millions de dollars canadiens pour envoyer des missionnaires dans le monde entier. Alléluia. Amen. Amen. Et mes amis, la vision, elle est là. Amen. Et votre Église a une vision. Et c'est juste que dans l'Église, nous suivions la vision que Dieu a donnée dans l'Église. Amen. Amen. Ensuite, une autre chose qui est importante à suivre, c'est la quatrième chose. Je vous ai dit que j'allais vous dire quatre choses qui sont importantes. Vous, d'abord, vous obéissez à la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, vous répondez à l'appel de Dieu. « Seigneur m'a appelé, Seigneur me voici. » Lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a dit « Ton serviteur écoute, me voici ton serviteur écoute. » Vous obéissez à la vision que Dieu a donnée à l'église locale. Mais ensuite, la quatrième chose à faire, c'est vous obéissez à votre conscience. Ne transgressez jamais votre conscience. Il est c'est pas bon pour un chrétien de transgresser sa conscience. Amen. Paul a toujours servi Dieu en toute conscience. Un jour, un homme qui s'appelait Adam Clark travaillait pour un vendeur de soie. Et son employeur lui a montré comment gagner plus d'argent quand il coupe la soie. Il dit, quand tu coupes la soie, pour un petit peu tromper l'autre, tu étires la soie. Elle est un petit peu élastifiée, comme tu l'étires bien et puis tu coupes. Alors au lieu d'avoir, je ne sais pas, un mètre, le gars il avait 90 cm après, 90 cm parce qu'il a étiré. Et Adam Clark a répondu, patron, peut-être que votre soie s'étire facilement, mais pas ma conscience. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est important pour nous de vraiment se réaliser de cela. Nous n'avons pas le droit de transgresser notre conscience. Et de même, ne faites en sorte que personne ne vous pousse à transgresser votre conscience. Amen. Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, 16. Je répète, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ça veut dire que quand je parle avec quelqu'un, lorsque je fais quelque chose, ma conscience est pure, ma conscience est tranquille. Dans Romains 9, 1, il dit ceci. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. 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 Un jour, un jeune homme était amoureux avec une jeune fille. Ils étaient tous les deux chrétiens. Et ils se connaissaient depuis quelques semaines, quelques mois. Et un jour, le copain, le petit fiancé, si vous voulez, lui dit, couche avec moi. Elle dit non. Et puis, quelques jours plus tard, de nouveau, couche avec moi. Elle dit non. Puis, quelques mois plus tard, de nouveau, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Et elle lui a répondu, écoute, si tu as envie d'aller en enfer, vas-y. Mais moi, je n'ai pas envie d'y aller. Elle n'a pas couché avec lui. Alléluia. Que personne ne transgresse notre conscience. Amen. Et surtout dans certains domaines. Il y a une organisation en Suisse qui s'appelle l'amour à temps. Le vrai amour à temps, le mariage. Allô? Et si quelqu'un vous dit, oui, si tu m'aimes vraiment, on peut aller au lit ensemble. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Alléluia, le vrai amour attend. Et nous devons apprendre ça à nos enfants. Surtout aux jeunes filles qui se laissent trop vite attirer par peut-être même carrément par de la culpabilité. Oh, mais si je l'aime, elle va croire que je l'aime pas. Mais bien sûr que vous l'aimez, le garçon. Mais si vous l'aimez, dites, et si il vous aime, dites-lui, attends. Parce que si tu ne veux pas attendre, c'est que tu ne m'aimes pas. Amen. Alléluia. La voie de l'obéissance conduit vers les bénédictions et les récompenses de Dieu dans cette vie et, dans les cieux. Amen. Vous savez, il y a tellement de bénédictions quand on obéit le Seigneur. Et je crois que quand chacun d'entre nous, nous suivons ces quatre points, j'obéis la parole, j'obéis l'appel, j'obéis la vision, et j'obéis ma conscience, votre vie non seulement sera bénie, mais la vie de ceux qui vous suivent. Amen. Moi, j'ai vu beaucoup de gens bénis de Dieu, même si leur propre vie n'est pas très claire avec Dieu. Mais la raison pour laquelle ils sont bénis, c'est parce que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père étaient des hommes droits et qui aimaient le Seigneur. Amen. Alléluia. Et vous savez qu'on a fait une fois une recherche sur deux personnages du XVIIIe siècle. Un s'appelait Mark Jukes et l'autre s'appelait Jonathan Edwards. Donc Jonathan Edwards, on connaît tous probablement parce que c'était un des grands revivalistes du XVIIIe siècle. Il a apporté ce qu'on appelait le « The Great Awakening » aux États-Unis, un homme de Dieu remarquable. Jukes était un homme impie, c'est un homme qui n'aimait pas Dieu. Écoutez un petit peu le résultat des recherches sur leur descendance. Vous voulez savoir ? Ou je vais revenir l'année prochaine ? Écoutez ça. Al Sanders, dans son livre « La crise de la moralité », dit ceci. « Max Jukes, l'athée, a vécu une vie sans Dieu. Il a épousé une fille impie, donc qui n'aimait pas Dieu. Et de cette union, il eut 310 descendants morts pauvres, 150 criminels, 7 meurtriers, 100 ivrognes, et plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. Ces 540 descendants coûtèrent à l'État $1,250,000. Wow. Et Sanders continue, dit, mais loué soit le Seigneur, cela fonctionne dans les deux sens. Il existe des traces d'un grand homme de Dieu américain, Jonathan Edwards. Il a vécu dans la même période que Max Jukes, mais lui, il a épousé une fille qui aime Dieu. Une enquête a été réalisée sur 1394 descendants connus de Jonathan Edwards. Écoutez ceci. 13 sont devenus présidents de collège, 65 professeurs d'université, 3 sénateurs américains, 30 sont devenus des juges, 100 des avocats, 60 étaient médecins, 75 étaient officiers à l'armée et à la marine, 100 prédicateurs et missionnaires, 60 éminents auteurs, un vice-président des États-Unis, 80 sont devenus fonctionnaires dans d'autres capacités, 295 diplômés d'université, parmi lesquels des gouverneurs d'État et des ministres à l'étranger. Ces descendants ne coûtèrent à l'État pas un seul centime. La mémoire du juste est bénie, dit Proverbe. Waouh! Alléluia! Hello! Dieu nous appelle à une vie d'obéissance. Je crois que nous avons besoin, honnêtement, nous chrétiens, de voir plus loin que le bout de notre nez. Nous, on croit que tout ce qu'on fait nous affecte nous. Bon, si on ne fait pas bien, ça m'affecte moi, un point, c'est tout. Non. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui, les paroles que nous professons aujourd'hui, vont affecter nous, notre génération, mais les générations à venir. Amen. Et nous avons besoin de prendre des décisions qui vont affecter en bien nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Dans Proverbe 13, 22, il est dit que le juste a un héritage pour les enfants de ses enfants. Alléluia! Et nous devons avoir un héritage pour les enfants de nos enfants. Ah, peut-être que c'est beaucoup, peut-être que c'est peu, mais c'est un héritage quand même. Mais un de ces héritages, hors, à part les biens et tout, c'est l'obéissance à Dieu. Combien d'hommes et de femmes ont dit, si je suis venu au Seigneur, c'est parce que ma maman priait tous les jours pour moi, parce que mon papa priait tous les jours pour moi. Si je suis venu au Seigneur alors que j'étais dans le monde, c'est que chaque fois que je revenais à 3-4 heures du matin, je voyais encore ma maman à genoux qui pleurait et qui priait pour moi. Amen. Et de génération en génération. Je relis parce que je la trouve trop bien celle-là. 13 descendants de Jonathan Edwards sont devenus présidents de collège, 65 professeurs d'université, 3 étaient sénateurs américains, 30 étaient des juges, 100 étaient avocats, 60 étaient médecins, 75 étaient officiers à l'armée et à la marine, 100 étaient prédicateurs et missionnaires, 60 d'éminents auteurs, un vice-président des États-Unis, 80 sont devenus fonctionnaires dans d'autres capacités, 295 étaient des diplômés d'université parmi lesquels les gouverneurs, des gouverneurs d'État et des ministres à l'étranger. Ses descendants ne coûtèrent à l'État pas un seul centime. Proverbe 17 dit « La mémoire du juste est bénie ». Et quand on dit la mémoire, ce n'est pas uniquement son souvenir, c'est aussi ce qui vient après. Amen. Moi, je suis prêt. Mon papa était chrétien, je suis chrétien. On a tous essayé d'obéir au Seigneur autant qu'on pouvait. Et je m'attends à avoir une descendance et une descendance et une descendance qui va bénir l'Éternel. Amen. Le Seigneur nous appelle à une vie d'obéissance. Suivre sa parole, suivre son appel, suivre sa vision, suivre notre conscience. 1 Timothée 3,9, Paul dit « Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. » Amen. Aujourd'hui, c'est ma fête, je vous l'ai dit, c'est vrai. Et j'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook. Plusieurs centaines. J'étais vraiment fier. Mais il y a un message que j'ai reçu. Ça m'a fait tellement de bien à mon cœur. Et je vais le lire parce que... Waouh ! Je voudrais le lire. Mais uniquement pour le résultat, hein, pas pour moi. Écoutez ceci. Cher Donato, c'est une jeune fille qui me l'envoie. En ce jour tout spécial, je prends mon clavier pour te souhaiter un très heureux anniversaire. Voilà bien longtemps que nous ne nous sommes pas croisés. Mais bien souvent, je repense à tout l'impact que tu as eu dans ma vie et je saisis l'occasion de ta fête pour le partager. Je suis impliqué dans le ministère des enfants depuis bien des années dans mon église ici à Vevey, c'est-à-dire en Suisse, dans mon église. Et je viens d'être nommé responsable pour l'enfance. Parfois, on me demande quel est mon rêve pour Dieu. Et cela t'étonnera peut-être. Mais je réponds que je veux être et rester une personne enthousiaste, comme celle que tu as été alors que tu étais tout jeune moniteur dans l'église des enfants, mais que tu partageais ta foi avec nous à l'école du dimanche dans notre église à Bruxelles. Je percevais déjà que ta relation avec Dieu était forte, remplie de l'Esprit de Dieu, et ton enthousiasme pour Dieu me touchait et me faisait envie. Aujourd'hui, je suis moi aussi une Donato pour les enfants de mon Église, et je suis reconnaissante de pouvoir le servir et transmettre ce que je sais et ce que je vis. J'espère que ce message te trouvera en bonne forme, ainsi que les tiens, et te touchera et t'encouragera. Tu vois, on n'est pas toujours conscient de l'impact qu'on a. Bon anniversaire, cher Donato. Que notre Seigneur te bénisse tout particulièrement, ainsi que ta famille. Oh, je l'ai envoyé directement à ma femme. C'est une fille, elle est mariée, elle a 3 superbes enfants. Elle habite en Suisse aussi maintenant. Et depuis qu'elle est en Suisse, hein, on ne s'est pas encore vu. Hein. Mais savoir que le petit investissement que j'ai fait dans sa vie, par mon exemple, a transformé sa vie. Et j'en connais d'autres comme ça, c'est extraordinaire. La femme qui m'a conduite au Seigneur, c'était ma monitrice d'école du dimanche, elle s'appelle Maggie Morio, elle a 80 ans maintenant. Elle est jeune, hein. Et elle lisait que ma fille Gabriella allait en mission, je crois que c'était à l'époque au Népal ou en Inde, et elle écrivait sur Facebook, oh, la fille de Donato va devenir missionnaire. Elle était tellement enchantée. Mais c'est une dame qui était jeune quand elle m'a conduit au Seigneur. Et un petit garçon, j'avais 4 ans, 5 ans quand elle m'a, 5 ans quand elle m'a conduit au Seigneur, 5 ans et demi, 5 ans et demi quand elle m'a conduit au Seigneur. Un jeune garçon a été le fruit, un des jeunes garçons a été fruit de son ministère. Et puis ça va de prochaine génération. Et je suis convaincu que ça va de génération en génération et en génération. Amen. Alléluia. Et cette fille s'appelle Cynthia, et quelle joie. Et en plus, c'est vraiment extraordinaire comment elle est venue au Seigneur. Ma maman avait un commerce de fruits et légumes, et elle était dans le commerce, dans son magasin, et il n'y avait pas de clients à ce moment-là. Vous savez, il n'y a pas de clients toute la journée, jour et nuit. Hein. Et elle met des choses sur le comptoir et elle chante. Et pendant qu'elle chante, une femme entre. C'est la maman de Cécilia. Et cette femme dit, mais cette chanson, je la connais. Qu'est-ce que c'est, madame? Puis ma maman commence à lui parler de Jésus-Christ et lui chante la chanson. Dit, et tout d'un coup, cette madame commence à pleurer. Elle dit, je me rappelle quand j'étais petit enfant à l'église des enfants, je chantais cette chanson. Je ne sais plus quelle chanson c'était. Mais grâce à ça, ma maman l'a réamenée au Seigneur, elle et toute sa famille. Puis cette petite Cynthia, qui était toute petite bébé pratiquement quand elle est rentrée à l'église, maintenant elle sert le Seigneur dans sa propre église. C'est extraordinaire. Amen. Écoutez, nous devons suivre l'appel de Dieu. La parole de Dieu, l'appel de Dieu, la vision que Dieu nous a donnée, et nous devons suivre notre conscience. Amen. Et je vous assure que de génération en génération, on se souviendra de nous. Comme avec Jonathan Edwards, la mémoire du juste, amen, hein, sera bénie. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. J'espère que vous avez été bénis par ces quelques jours ensemble. Moi, je suis vraiment tout enchanté, je suis tout heureux. Et je vous dis, beaucoup de choses m'ont été dites aujourd'hui et j'étais vraiment béni de voir comment les gens apprécient ce que je fais. Mais la plus belle chose que je fais, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est obéir à Dieu. Ma plus belle chose, c'est de dire dans mon cœur, Seigneur, je t'ai obéi dans toutes tes voies. C'est ce que je tends. Je ne dis pas que je le fais toujours, on peut tous se tromper, mais je tends vers cette obéissance-là. Je tends à ce que, et nous devons tendre à obéir Dieu dans tout ce qu'il nous dit. Quand nous apprenons à obéir la parole de Dieu, automatiquement on apprend à obéir le Saint-Esprit. On apprend à obéir l'appel de Dieu. Et ensuite, la vision que Dieu a donnée et notre conscience. Waouh! Hallelujah! Si tous obéissent Dieu, le réveil sera dans le monde. Apprenons à obéir le Seigneur. Amen. Père, nous te remercions beaucoup, parce qu'en toutes choses, tu nous rends plus que vainqueurs. Merci, Père, pour la parole de Dieu, qui est la vérité, esprit et vie. Père, Seigneur, tu nous dis ce soir de suivre ta parole, de suivre l'appel qu'il y a sur notre vie, de suivre la vision que tu nous as donnée, en commençant par suivre la vision de notre église locale. Et aussi de suivre notre conscience. Et fais en sorte que chacun d'entre nous ce soir, nous puissions vraiment suivre l'appel, suivre la parole, suivre l'appel, suivre la vision, suivre notre conscience. Et d'avoir une idée bien plus loin et une image bien plus loin que nous-mêmes. Mais pensez aux générations à suivre. Certains disent, mais moi je n'ai pas d'enfants. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais l'Église est remplie d'enfants. Et votre exemple dans l'Église peut être un exemple qui va se répercuter, se propager, se reproduire de génération en génération. Et peut-être dans quelques années, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira, oh, rappelez-vous de telle personne, de telle personne, de telle personne dans l'Église, l'exemple qu'il nous a laissé. Alléluia. Imaginez-vous le nombre de gens qui viendraient à Jésus uniquement parce que nous sommes obéissants à la parole, à l'appel, à la vision et à notre conscience. Merci Père de bénir chaque personne. Merci pour cette église formidable. Merci pour la vision que tu as donnée au pasteur Réal et au pasteur Chantal. Merci Seigneur pour cette équipe formidable qui travaille d'arrache-pied pour toi, qui se donne à fond et qui fait tout aussi pour obéir à la vision céleste et ne pas lui résister. Sois béni dans le nom de Jésus Père. Amen. Amen. Amen.